Lundi 19 février, il est 18h et bientôt une minute, vous écoutez Radio Campus Paris en FM et sur le web, et à 18h, c'est toujours l'heure de La Relève.
La Relève, un lundi sur deux à 18h, sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.
Bonsoir, bienvenue, La Relève, c'est aujourd'hui comme à chaque fois 30 minutes avec un jeune talent, mais aujourd'hui on va parler d'ivresse et de littérature puisque mon invité est écrivaine. Bonsoir Charlotte Perronnet.
Bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes l'autrice de « Et toi, pourquoi tu bois ?» aux éditions de Noël. Il y a un livre, je l'ai entre les mains, là sur la table. Vous diriez-vous que c'est un témoignage, un récit, un roman ?
Un témoignage, je pense que c'est un témoignage. Après, si ça peut parler à un peu plus qu'un témoignage, c'est encore mieux.
Pourquoi ? Ça serait mieux ?
Parce que moi, alors c'est peut-être en tant que lectrice, mais j'ai toujours un petit peu cette crainte qu'on soit cloisonné dans l'univers du témoignage. Or, je pense que ça parle de plein de sujets, et donc il y a peut-être moyen d'aller chercher d'autres gens.
Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire votre histoire, celle du parcours d'une jeune femme qui boit un peu beaucoup, beaucoup, beaucoup trop ?
Passionnément.
j'ai pas osé.
Ce qui m'a donné envie de lire ce livre.
L'écrire d'abord, peut-être.
Pardon. Oula. Oui, de l'écrire en effet. C'était presque une urgence un peu d'écrire ce livre pour moi. Il y avait un côté un peu cathartique au démarrage. Heureusement, j'en suis sortie parce que sinon, je pense qu'il aurait pas été bon à lire pour le coup. Pourquoi est-ce que j'ai eu envie d'écrire ce livre ? Parce que j'en ai eu marre qu'on me pose cette question. En fait, quand j'ai... donc l'histoire, c'est que je suis alcoolique. Aujourd'hui, abstinente depuis presque 3 ans. Et en fait, au démarrage, je n'ai pas eu le choix que d'arrêter de boire, parce qu'en fait, c'est un peu ça, c'est que j'ai vraiment pas eu le choix d'arrêter de boire, et que j'ai dit à mes proches, à partir de maintenant, je vais essayer d'arrêter de boire parce que je suis alcoolique. Beaucoup m'ont répondu, ah mais tu déconnes, t'es pas alcoolique. Et assez simplement parce qu'en fait, ils l'avaient pas vu, parce que je le cachais beaucoup, beaucoup, et que finalement, je le cachais aussi à moi-même en faisant ça d'ailleurs. Et en fait, je me suis dit, mais il faut raconter peut-être ce que c'est qu'être une femme alcoolique, une personne qui n'a pas la gueule de l'emploi. Et donc, ça a été une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce bouquin.
Mais d'abord, vous l'avez d'abord écrit pour vous, parce que vous racontez, hein, vous avez beaucoup de notes que vous avez prises au fur et à mesure sur votre portable, des photos que vous utilisez beaucoup. Au départ, vous écrivez pour vous, vous avez l'idée d'être publié ?
J'écris pour essayer de comprendre pourquoi moi je suis tombée dedans, pourquoi j'ai bu plus que les autres. Donc je pense qu'au démarrage, il y a vraiment ce souhait d'essayer de comprendre. Mais rapidement quand même, je me dis, en fait, si une personne ou deux personnes peuvent le lire et se dire, un tel ou ma cousine, mon amie, ma tante, ma mère, mais peu importe en fait, ou même moi, je bois comme Charlotte, là en fait voilà. Donc assez rapidement, ça me motive en me disant, je me suis jamais dit que je pouvais être alcoolique, y compris quand à la fin je buvais jusqu'à 12 litres de bière par jour. Je me suis jamais dit ça, et donc je me suis dit, si ça peut en aider une ou deux.
12 litres de bière par jour, je n'y crois toujours pas, mais.
Le corps s'habitue à des folies. Jusqu'à quasiment 12 litres de bière par jour.
J'ai noté, et j'ai lu votre livre, donc je sais que vous êtes trop fine autrice pour l'avoir dit par hasard. Vous dites, aujourd'hui je suis alcoolique, on est toujours alcoolique même quand on a arrêté ?
Oui, on est toujours...
Vous n'avez pas dit j'étais, ça m'a surpris en fait, c'est pour ça que je vous pose la question.
Je suis toujours alcoolique, par contre je fais le choix d'être abstinente. C'est une maladie que malheureusement je traînerai à vie, je serai alcoolique toute ma vie. Après voilà, il y a un traitement contre l'alcoolisme pour vivre correctement avec cette maladie finalement, c'est de ne pas boire une goutte.
Alors, on va éviter de ne parler que du sujet parce qu'il y a un vrai travail d'écrivain dans votre livre avec une construction, un style. Justement, est-ce que vous avez eu du mal à trouver le ton juste pour ce livre ? Est-ce que vous l'avez beaucoup travaillé ?
Le ton, pas tant que ça, je pense. J'avais à cœur de... j'ai été journaliste radio, donc j'avais à cœur d'écrire un livre un petit peu comme on parle. Parce que c'est...
Ouais, vous avez un style parlé, mais...
Parce que c'est un peu la manière dont j'ai toujours écrit, en tout cas quand j'étais journaliste. Et puis j'avais aussi à cœur de faire un livre, alors j'espère que c'est le cas, mais pas trop plombant, dans le ton et dans la forme, et accessible en fait surtout. Et donc il fallait que ce soit certes précis, parce que justement, c'est ce que, ça pour le coup, j'avais vraiment un vrai souhait d'une honnêteté et justement là où je me suis tellement pendant tellement d'années cachée pour boire, etc. Là je voulais vraiment, j'avais vraiment un souhait d'honnêteté et de précision, du sens du détail, mais avec un style si possible très accessible en fait.
Je trouve que l'honnêteté, vous l'avez parce que vous ne tombez jamais dans l'autocomplaisance, ni, et à mon avis, dans la forme ultime d'autocomplaisance qui est de s'accabler. Vous êtes toujours sur une ligne de crête très... Vous êtes très à dire « je suis responsable », vous ne voulez pas accabler les autres autour de vous. C'est très étrange, cette manière dont vous vous placez.
Bah parce que je suis la seule responsable pour autant, tout en l'étant pas trop, parce que c'est une maladie. Et que, pour le coup, j'ai pas choisi d'être malade alcoolique, sinon j'aurais clairement pas fait ce choix-là, d'ailleurs. Personne n'est à blâmer.
Alors, il y a des gens qui vous pourraient en vouloir, par exemple.
Il y a quelques récemment, on m'a dit, quelqu'un qui avait lu le livre, et qui m'a dit, bah, y a une personne, enfin, ou en tout cas, une entité qui règne par son absence, c'est l'État. C'est justement l'absence de prévention, l'absence...
Bon, vous en parlez un peu.
Et j'en parle un peu, donc ce serait peut-être finalement un des...
Et ça serait un pamphlet, ça serait un essai, ça serait plus un récit. Mais par exemple, vous pourriez en vouloir à ce directeur d'école qui explique que vous finirez... Enfin, on ne va pas dire le nom de l'école. Quand vous arrivez, il vous dit vous finirez soit marié, soit alcoolique. Bon, qui prouve à quel point c'est dans les mœurs de cette école.
Le nom de l'école est dans le livre, hein, mais...
j'en veux pas à cette personne, et c'est pas la question d'en vouloir, mais...
Mais parce que je pense que... Alors, le sujet est dur quand même. Il est évidemment question de maladies alcooliques et de choses qui ne sont pas très fun à vivre. Je suis quand même pas... Enfin, oui, j'ai eu des moments très compliqués. Mais peut-être que pour en parler, enfin, ou en tout cas, c'est ma méthode, un peu d'autodérision, y compris un peu d'humour, peut être... Enfin, aujourd'hui, je me dis, en fait, mais c'est peut-être parce que je suis abstinente, mais aujourd'hui, je me dis, parfois, il vaut mieux en rire. Je dis que j'avais une carte de fidélité à l'hôpital Lariboisière. Et oui, en fait, c'est aussi ça, être alcoolique. Et est-ce que si on en fait un bouquin déprimant et...
Oui, et vengeur, c'est pas forcément...
Je suis pas sûre que ce soit la bonne méthode. En tout cas, dans mon cas, j'en veux vraiment à personne, si ce n'est peut-être de pas avoir écouté avant et peut-être d'avoir manqué d'exemple. Ça, à la limite, c'est quelque chose qui m'a mis un peu en colère, finalement, de ne pas me réveiller
d'être
avant.
D'être seule, finalement.
Alors, j'étais pas seule, parce que j'étais très bien entourée.
Oui, mais...
Mais plutôt de pas avoir réalisé que je pouvais être... que moi aussi, en fait, je pouvais être malade alcoolique à 30 ans, avec des diplômes, un boulot, en couple, etc. C'est peut-être ça, en fait, qui m'a donné envie d'écrire et qui m'a mise en colère. C'est peut-être plus ce constat de se dire, mais on le sait, en fait, on le sait que ça arrive. On sait que ça n'arrive pas qu'aux autres, surtout, et on ne le dit pas. C'est probablement ce qui m'a un peu mise en colère.
Alors je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, je ne sais pas si c'était avant ou après que le rouge soit mis. En tout cas, vous avez travaillé à la radio, vous avez travaillé dans une radio, donc vous connaissez comment on travaille. Quand on fait une émission comme ça, au moment, on lit le livre et puis après, on le reprend. Et en le relisant avant pour préparer l'émission, j'ai retrouvé cette phrase au début que j'avais oubliée. Vous avez écrit « Ce livre, le journal de mon addiction, j'en ai vomi chaque phrase ». Et alors, on n'a pas du tout l'impression de ça quand on le lit. Non, mais je veux dire, au sens où on ne sent pas qu'il y a quelque chose de violent. Vous avez voulu adoucir, on sent que c'est très dur que...
Alors, il y avait une première version du livre qui était probablement un peu trop violente, justement, ou qui était un récit brut de ce que j'avais pu vivre avec l'alcool. Vraiment, épisode après épisode, un peu construit comme une série, finalement. Et sans prise de hauteur, du tout. Sans prise de hauteur de la personne que je suis aujourd'hui, et sans regard, finalement, d'une personne sobre sur ce que j'ai pu vivre à l'époque. Et ça, c'est après en avoir discuté, justement, avec des gens merveilleux de maisons d'édition, et qui m'ont dit « Ouf !» Ça tabasse peut-être un peu fort. Et ils m'ont dit par ailleurs, le risque est justement de se cloisonner en fait en mettant ce récit brut, alors qui certes est très brut et probablement va peu accrocher les gens, mais ils m'ont dit est-ce que ce qui pourrait pas ajouter un, un peu d'intérêt aussi au récit serait d'avoir ton regard aujourd'hui sur ce que tu as pu vivre à l'époque. Et là-dessus, bah, je le remercie parce que voilà, vraiment, je pense que c'est un précieux conseil et probablement que ça adoucit un peu le récit. Après, il y a quelques chapitres, clairement, que j'ai vomi, vraiment, plus que d'autres.
La trahison, par exemple, le vu.
La trahison.
Les agressions.
Et ouais, bah voilà, exactement. Je pensais à tout le chapitre sur la sexualité aussi. Tout le chapitre sur la sexualité, tout le chapitre sur la trahison. Il y a quand même quelques... Le chapitre... qui est à la fois, ceci dit, plein d'amour et en même temps je l'ai beaucoup vomi aussi celui-là. C'est le chapitre que j'appelle tous des cons. Donc ça c'est le chapitre sur les autres.
Les gens autour de vous.
Les autres, ouais, ceux qui ont...
Ceux qui profitent, ceux qui regardent et ceux qui n'arrivent à rien dire et qui savent.
Exactement. Et il y en a que je remercie, enfin je manque de mots d'ailleurs pour les remercier. Mais il y en a d'autres quand j'ai écrit ces lignes-là où vraiment, là pour le coup, ça n'a pas été évident celle-ci.
Quand on vous lit, c'est étrange parce qu'on sent le manque, le besoin, le trop. On est avec vous et vraiment, je le redis, hein, vous avez un talent d'écriture parce qu'on est vraiment avec vous. On a presque des moments, nous aussi. Je ne vais pas dire que vous donnez soif parce que ça ne donne pas très envie, mais on ressent très bien ce que vous avez dû, ce que ressent votre personnage qui s'appelle Charlie, puisque vous jouez sur un peu comme Gainsbourg, Gainsbar. Il y a les deux faces, il y a Charlotte et Charlie. C'est tout ça que vous voulez raconter et ça passe par le style d'écriture. Donc là encore, moi, c'est ma question, c'est comment vous l'avez travaillé, comment vous faites pour arriver à faire ressentir ça, cette espèce d'urgence qui est en permanence d'avoir sa dose. Allez-y.
Non,
la réponse est toujours plus intéressante que la question.
Parce que c'était une vraie urgence en fait.
Vous commencez à écrire quand d'ailleurs, à un moment où vous devenez abstinent ou un peu après.
J'arrête de boire en mars 2021 et je commence à écrire en juin 2021. Aussi.
C'est pour remplacer le produit aussi, ça vous occupe?
Mais complètement. Il y a ce rapidement en fait, je me dis mais c'est pas possible. Enfin, il faut que j'occupe, il faut que je comprenne, il faut que j'essaie de comprendre en fait ce qui s'est passé. Au début, je gratte des choses qui n'ont ni queue ni tête. Et en fait, c'est vraiment ce qui se passe dans mon cerveau, c'est l'après quoi. C'est un dossier que j'ai sur mon ordinateur et qui n'est pas dans ce livre d'ailleurs du coup, mais qui s'appelle No Brain. Et je pense qu'en fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment le je déverse. Et sur le ton.
Sur l'énergie qu'il y a dans ce livre, c'est plein de vie en fait. C'est très étrange parce que. C'est un peu un livre qui raconte, j'ai presque envie de dire, une quête suicidaire. Si j'ai tort, vous me le dites, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et en même temps, c'est plein d'énergie, c'est plein de vie. Et on voit quelqu'un qui lutte en permanence pour rester vivant.
Parce que
vous ne nous épargnez rien aussi des côtés sombres de l'alcool. On a dit qu'il y avait de l'humour, mais il ne faut quand même pas tromper les gens. Vous êtes aussi, vous ne cachez rien, les comas éthyliques,
les pensées suicidaires, oui, on est vraiment sur une descente aux enfers. Mais parce qu'en fait, je pense que c'est... tout à l'heure je disais que j'écrivais comme je parle. Enfin, ce livre, c'est dans le ton, c'est aussi Charlotte et Charlie, parce que du coup je m'appelle Charlotte, mais en fait tout le monde m'appelle Charlie. Et en fait le ton, alors j'espère que ça fait pas condescendant d'écrire ça, mais c'est mon ton en fait. Enfin, c'est la manière dont je parle.
C'est pour ça que j'ai dit que vous étiez un écrivain tout à l'heure.
C'est très gentil.
Il y a un style, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu ailleurs. Il y a de l'humour, il y a un sens de la formule, de la punchline. Je pense que vous avez dû écouter beaucoup de rap quand vous étiez jeune, non?
J'ai écouté un peu de rap, ouais. Ça m'arrive. J'ai surtout écouté beaucoup de rock.
Ah aussi.
Et puis après en termes de style, moi j'admire une autrice et peut-être que ça se, je sais pas si ça se sent, mais c'est vrai que j'aime beaucoup Virginie Despentes.
Ouais. On y pense.
Le ton très cash et un peu cru et probablement que ça a aussi un peu nourri la manière dont j'écris. Et même si je me suis adoucie un peu quand même.
Il y a un point, vous ne romantisez, je ne sais pas si existe le verbe là, romantisez pas l'alcool, vous n'en faites pas quelque chose d'héroïque. Et j'avais envie de vous demander, parce que c'est quand même un peu le personnage principal du livre, si c'était un personnage, ce serait qui? Si c'était un être humain? Moi, j'ai pensé à un ami pervers, mais peut-être vous avez...
Si l'alcool était un personnage...
Parce que c'est le personnage central du livre quand même.
C'est complètement le personnage central du livre. C'est très chouette comme question. Il va me falloir peut-être un peu de réflexion pour répondre à celle-ci.
On passe un peu de musique et puis je vous la repose après.
Ça marche.
Allez, on écoute un peu.
marche tout droit dans la rue, la pluie glisse sous mes pas et je me sens bizarre, difficile à décrire, comme si je t'ai visé de loin par ton sourire. Je sens ta colère, ton envie, ta détresse, ta solitude profonde, ta très grande tristesse. Oui, je me sens bizarre, difficile à décrire. Je préfère en pleurer parce que j'ai trop peur d'en rire. Garde ta colère, ton envie, ta détresse, ta solitude profonde, maintenant c'est tout ce qui te reste.
Alors, il y a un grand débat, est-ce qu'on dit l'esco ou l'escope ? En tout cas, le titre, c'est Rêve parti. On est toujours avec Charlotte Perronnet, autrice de « Et toi, pourquoi tu bois ?» aux éditions de Noël. D'ailleurs, si vous avez une solution sur le débat, l'esco, l'escope, non ?
Non, malheureusement, pas de solution.
On ne saura toujours pas, on va être obligé de l'inviter pour lui demander. Je vous repose ma question, vous avez une réponse ou pas sur... Si l'alcool était un personnage, un être humain, ce serait qui ?
C'est pas évident, hein. Même après une petite pause musicale.
Surtout qu'on a parlé pendant la pause musicale. Je vous ai pas laissé réfléchir, pardon.
Quelqu'un qu'on aime beaucoup. Je penserais presque à une personne de la famille. Qu'on aime presque par, dans mon cas, presque par obligation. Et jusqu'à un certain point, on se rend compte de sa potentielle toxicité.
Oui, parce que... Alors, puisque vous parlez de famille, il y a au départ, l'alcool est aussi dans votre famille présent. C'est quasiment un rite. Personne ne s'inquiète quand on vous voit boire.
Ah, et ma famille ressemble à plein de familles d'ailleurs.
Oui, bien sûr. Je dis personne.
Mon premier verre est un verre en famille. À 13 ans, un petit fond de sauterne au repas de Noël, quoi. C'est vraiment un rite initiatique, c'est côté très culture G, ça y est maintenant t'es adulte, t'es grande, t'as le droit à ton fond de verre, que je trouve absolument répugnant d'ailleurs à cet âge-là, mais forcément 13 ans, on n'est pas prêt, on n'a pas un palais d'adulte et on n'est pas prêt, mais bon après ce qui est...
Après il y a le lycée, les copains de lycée, l'école, il y a tous les rites de passage, à chaque fois on voit... Parce que c'est ça aussi que vous nous faites prendre conscience dans votre livre, c'est à quel point l'alcool est présent partout dans la société, dans la culture française en tout cas.
Mais en fait, je bois comme beaucoup de gens, d'ailleurs, au démarrage. Je bois comme beaucoup de jeunes, en tout cas, le petit verre en famille. Puis, on est au lycée, on a un peu envie d'être cool. C'est une manière d'être cool que de boire aussi. Après, je suis rentrée en école d'ingénieur et là, il y avait un vrai souhait de se faire intégrer. Et ça passait aussi, et beaucoup, par boire.
Avec quand même des scènes de beuverie, moi, qui m'ont surpris. Je pensais que ça existait plus, ça. Mais bon, c'est là que je vois que je suis plus jeune.
et ça existe, alors, moins. Il semblerait, ne serait-ce parce qu'il y a une étude qui est sortie il y a très peu de temps et qui dit que les jeunes ont tendance à boire un peu moins qu'avant. Étude qui m'a rassurée et qui m'a mis du baume au cœur. Mais les beuveries existent toujours et le binge drinking existe toujours, pourvu que la prévention soit un peu plus présente par contre. Mmh.
Est-ce que vous avez toujours voulu écrire parce que vous avez fait des études d'ingénieur, vous avez fait des études de journalisme à Sciences Po, vous avez fait du journalisme radio, vous avez ouvert un restaurant, je crois qu'aujourd'hui vous êtes dans une boulangerie. L'écriture, c'était un rêve ou pas ?
C'était une idée que je n'osais pas verbaliser en me disant mais...
Vous sentiez pas légitime ?
Ah mais encore aujourd'hui, hein. D'ailleurs, très honnêtement, je me sens toujours pas très légitime.
Bah si, le livre est là.
Mais le livre est là, le livre existe.
C'est vous qui l'avez écrit, donc...
J'arrive toujours pas trop à réaliser ce qui se passe, et pourtant c'est incroyable ce qui se passe, c'est vraiment génial. Mais j'avais clairement un petit syndrome de l'imposteur avec mon parcours.
Alors vous montrez aussi très bien dans le livre le rôle social de l'alcool, les stéréotypes, et notamment que c'est... En tant que garçon, j'ai jamais pensé que c'était plus compliqué pour une femme de boire que pour un homme. Et en tout cas, les femmes, on les voit moins, les femmes qui boivent.
On est clandestines, les femmes qui... Nous, les femmes qui buvons, on est clandestines, on se cache partout, tout le temps. Il n'y a pas un alcoolisme plus reluisant qu'un autre et je ne voudrais pas les mettre en opposition, mais pour autant...
Non, il est différent, c'est ce que vous montrez.
En fait, c'est ça, c'est qu'on a quand même des petites particularités quand on est une femme et qu'on boit, c'est qu'en fait, on colle tellement pas avec l'image... qu'on attend de la femme, qui est une image qui est un peu nulle et très discutable, mais c'est vrai qu'on attend potentiellement de nous qu'il y ait une forme de désirabilité, qu'on ait un job dans lequel on s'épanouisse, qu'on ait... Alors, je suis pas maman, mais il pourrait y avoir le côté où on gère un foyer, et la femme qui boit, elle est trop, en fait.
Mais elle est en plus sexualisée, et forcément un peu dangereuse.
Mais complètement, une femme... Enfin, moi, j'ai beaucoup bu pour me désinhiber.
C'est pas ce que je pense, hein, c'est ce que vous dites. Je tiens à le préciser pour les gens qui écoutent, hein, c'est pas du tout ce que je pense. Je reprends ce que vous expliquez dans votre livre.
Oui, mais combien de personnes, et hommes ou femmes d'ailleurs, et tout le monde au milieu, ont bu pour se désinhiber, pour justement s'enlever, enfin, se donner un peu de courage liquide, finalement. Et une femme qui se donne du courage liquide...
Quelqu'un qui parle de courage liquide est un écrivain, franchement, c'est une très belle expression.
Peut-être. Merci encore une fois, mais après, c'est vrai que voilà, j'ai toujours un peu de mal à réaliser que ce livre est là, mais pour autant, je suis très heureuse.
À plusieurs reprises, vous expliquez que si vous avez bu, c'est parce que vous aviez peur d'être chiante si vous ne buviez pas. C'est si grave d'être chiant.
C'est terrible.
Toujours, vous avez toujours peur de ça.
Mais j'ai toujours peur de ça. Alors même si aujourd'hui, après presque 3 ans sans alcool, je commence à me conforter sur le fait que que mon caractère est celui qu'il est et que en fait finalement, j'ai pas besoin d'alcool pour être qui je suis et la version que je suis aujourd'hui sans alcool est tellement mieux que celle que j'étais avec alcool. Mais quand, enfin, je me rappelle de ce dernier verre à la main à flipper, à me dire mais en fait je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que je vais devenir, mais une chose est sûre, c'est que je vais devenir terriblement pénible, quoi, et terriblement chiante, et plus personne va rire à mes blagues et à quoi bon, quoi. Et en fait moi je me disais mais ok, j'arrête de boire, mais en plus je vais devenir nonne à ce rythme là enfin, c'était vraiment terrible, j'avais cette crainte immense.
C'est même plus terrible que ça ce que vous écrivez, si je peux me permettre, parce que je l'avais noté, c'était la question d'après, donc ça va, on est raccord. Vous dites je veux redevenir vous, attendez, l'application, vous allez sur votre application là où qui va vous accompagner, c'est la toute fin du livre, et vous dites l'application me demande pourquoi je veux rester sobre. Bien, bien bonne question, tiens, ce matin là j'écris, je lis très mal, je suis désolé, je veux redevenir moi alors même que je ne sais pas qui je suis sans alcool. Je trouve ça terrible, vous ne saviez même plus qui vous étiez sans alcool. C'est ça la particularité quand on commence à boire jeune. C'est qu'on n'a même pas le temps de se former, quoi.
J'ai bu de mes 13 ans à mes 30 ans. Donc 17 années pendant lesquelles, en plus, je pense que c'est quand même des années dans lesquelles on se construit beaucoup. Je me suis construit en tant que femme, je me suis construit en tant que personne. C'est le moment où j'ai choisi ma voie pro. C'est le moment où j'ai découvert ma sexualité. Enfin, et l'alcool a toujours été là. Dans tout ce que j'ai fait, l'alcool a toujours été là. Donc en fait, c'est vrai que ce lendemain, ce premier jour sans alcool, je me rappelle ouvrir cette application et on me demande pourquoi. Et moi, je me dis, oh là là, c'est terrible. Et le je veux redevenir moi, mais en fait, je n'avais strictement aucune idée de qui j'étais sans alcool. Et je pense que trois ans après, je commence à toucher du doigt. Ça y est, qui je suis sans alcool, mais il a fallu du temps.
Elle est bien, la Charlotte sans alcool ?
Elle est tellement mieux. Déjà, elle finit moins à l'hôpital, ce qui est quand même vraiment, vraiment mieux pour moi et pour mes proches qui se font moins de soucis aussi. C'est tellement précieux de vivre des moments en pleine conscience et de se dire que tout ça, on le vit parce qu'on en a envie aussi. Il n'y a pas photo.
Je sais bien que vous n'êtes pas coach, mais s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont un problème avec l'alcool ou qui se demandent s'ils en ont un, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire d'aller voir un addictologue? Parce que vous, vous expliquez que vous avez mis très longtemps à voir quelqu'un qui vous parle de l'alcoolisme. Vous allez aux urgences. Aux urgences, bon, bah, on vous soigne parce que vous êtes tombé, parce que vous avez le nez qui saigne. Enfin, vous êtes ouvert le nez, je crois, ou la bouche, je ne sais
plus.
La
lèvre, oui.
La lèvre. Où il y a une scène où à l'école, vous êtes en robe de soirée, vous êtes tombé. Et là encore, enfin c'est un peu le même. Mais personne vous dit, mais vous avez peut-être un problème avec l'alcool, madame, qu'on vous considère un peu. Bon, bah voilà, elle a trop bu, puis c'est tout. C'est... On n'imagine pas qu'il y ait une addiction derrière.
Bah, à chaque fois que j'atterris à l'hôpital, et j'atterris malheureusement quelques fois à l'hôpital, on pense à des alcoolisations ponctuelles, en fait. J'ai abusé à ce moment-là. Et d'ailleurs, moi aussi, je pense que j'ai abusé à ce moment-là. Je ne me dis pas que j'ai un problème d'addiction et des comportements addictifs. Déjà, se poser des questions sur sa consommation, c'est déjà très fort. D'être à même de se dire et de se questionner, c'est déjà très fort parce que finalement moi j'ai atterri chez un addictologue, j'ai commencé à me questionner la veille quoi, donc voir à l'instant T mais pas tellement avant, donc c'est déjà très fort et très courageux de se poser ces questions là, de se dire à quel point est-ce que j'ai besoin de l'alcool, est-ce que si je m'en passe surtout en fait, parce que c'est surtout ça la question. Je trouve que le bon test c'est peut-être de se mettre dans une situation où il y a de l'alcool, où par exemple il y a une soirée, un dîner, peu importe, une situation où on est en France donc l'alcool est très souvent présent, une situation où il y aurait de l'alcool et si je m'en passe qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va m'énerver? Est-ce que franchement j'arrête pas de me dire que je vais passer une mauvaise soirée, autant rentrer chez moi? Est-ce que... Et rien que ça, rien que se poser cette question-là, c'est déjà énorme. Et après, si vraiment bah, le constat est que finalement on a du mal à s'en passer, il existe les alcooliques anonymes, il existe des lignes d'écoute, il existe des groupes de parole, il existe plein de comptes Instagram aussi qui peuvent donner quelques petits tuyaux. Et évidemment les addictologues.
Le sevrage, c'est un combat?
Oui, mais heureusement de plus en plus facile avec le temps. Ouais.
À ceux qui connaissent quelqu'un qui a un problème d'alcool, vous leur conseillez quoi? Parce que justement, il y a chapitre tous des cons.
Ouais.
Quoi faire pour pas être un con?
Eh ben, être un con, en fait. Ces personnes qui ont osé, mais parce que vraiment, je dis bien osé, me dire que j'avais un problème avec la boisson. Alors, il y en a pas, heureusement. Enfin, heureusement ou malheureusement d'ailleurs, ils sont pas très nombreux. C'est très compliqué de confronter quelqu'un qui boit beaucoup et de lui dire t'es sûr que ce verre-là il est vraiment nécessaire. Moi, il y en a eu quelques-uns. Je les ai détestés, ces gens-là, mais vraiment détestés. Mais aujourd'hui, je manque terriblement de mots pour les remercier parce qu'en fait, c'est incroyable de se dire que quelqu'un est capable de se fâcher avec soi pour son bien. Et moi, je pense que le secret, c'est peut-être de ne pas viser, de ne pas pointer le verre en question, mais d'essayer de comprendre pourquoi cette personne boit. Il y a peut-être des moments aussi qui sont plus opportuns que d'autres, parce que c'est sûr qu'en termes d'impact, quand on parle à quelqu'un qui est complètement alcoolisé, l'impact sera vraiment zéro. Mais en parler, enfin, moi, c'est ce qui m'a sauvé, quoi.
Les gens qui parlent, eh ben voilà, j'espère qu'on en a parlé, là, que ça, on ne saura peut-être pas quelqu'un, mais en tout cas, on aidera quelqu'un à peut-être faire un pas. Moi, je conseille à tout le monde de lire votre livre. Je redonne son titre, Et toi, pourquoi tu bois? C'est signé Charlotte Perronnet, c'est aux éditions de Noël. Et je le redis, c'est d'abord à conseiller à tous les gens qui aiment la littérature. Parce que je le redis, je me répète, il y a un témoignage fort, mais il y a aussi une voix d'écrivaine. J'espère que vous allez continuer à écrire. Merci beaucoup. Surtout, ne soyez pas sub sur l'écriture.
Merci beaucoup. Ouais.
Merci beaucoup. Voilà, c'était La Relève, préparée et présentée par Christophe. La réalisation était assurée par Pablo. Vous pourrez retrouver cette émission et toutes les précédentes sur le site de Radio Campus Paris. En attendant, vous pouvez réécouter toutes les premières de la saison. Tout de suite, le programme musical de Radio Campus. À 19h, c'est la matinale, si je ne me trompe pas. Et dans 15 jours, on se retrouve pour La Relève. Bonne soirée, à très bientôt.